France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Pour moi, la production d'une nourriture de qualité qui respecte l'environnement, le bien-être animal, ça correspond à un changement de société auquel j'aspire. Et je me suis dit, allez, on met les mains dedans. Si vous mangez 2 œufs tous les matins, si vous les faites avec du bacon, de la crème, l'œuf en lui-même, si on rajoute rien, c'est un super aliment. Quand on pense à tous les gâteaux, toutes les préparations, les quiches, etc. Enfin, c'est vraiment l'allié du cuisinier et notamment de la maman de famille. Fait son repas un peu au dernier moment. Enfin, moi, j'en utilise énormément des œufs, quoi.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Pour vous souhaiter, chers auditeurs et chères auditrices, de très joyeuses Pâques, rien de mieux qu'une émission entièrement consacrée à l'œuf. Nourrissant, pratique, bon marché, l'œuf est l'aliment basique, fondamental, universel par excellence. Alors on va le choisir, on va le casser et on va le mitonner sous toutes ses formes avec notre invitée du jour, Christine Légeret, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous êtes styliste, photographe, autrice culinaire et vous signez les recettes, les textes et les très belles photos de l'œuf au quotidien, recettes aux œufs pour tous les jours chez First Edition, l'un des livres les plus complets sur le sujet. On en a vu passer des livres sur l'œuf, mais alors celui-ci, on a tous eu un véritable coup de cœur. Il est complet, il est gourmand, il fait envie. Il y a d'ailleurs votre éditrice, Rosemary Di Domenico, qui est en notre compagnie aujourd'hui dans notre studio. On va déguster ensemble de très belles recettes. Un petit avant-goût de ce que vous nous avez préparé, Christine.
Alors, je vous ai préparé aujourd'hui un flan aux saveurs umami.
Oui.
Un flan salé.
Très bien, on n'en dit pas plus, surtout.
Voilà.
Il y a également une recette très exotique.
Voilà, on a aussi une soupe d'origine colombienne au lait. C'est la changua.
D'accord.
Lait et coriandre. Et pour finir, on a des œufs confits au sucre et au gingembre.
Et ça, c'est quelque chose. Ils sont déjà dressés dans nos assiettes sur le plateau dont on va déguster l'œuf ou la poule. Rassurez-vous, on ne va pas répondre à cette énigme vertigineuse. En revanche, on va s'intéresser à l'œuf et à la poule au cœur d'un élevage modèle de poule pondeuse cornaquée par Camille Stouls dans le Beaujolais. Un reportage de Salomé Costagliola à découvrir dans le courant de cette émission. Ils sont avec nous tout au long de cette émission, Elvira Masson et notre historien maison Loïc Bienassi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes
Bonjour.
Et tous.
Elvira.
Côté nutrition, l'œuf, on va voir que c'est un peu un feuilleton à rebondissement.
Et oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous allez nous le raconter, c'est un sacré truc. Loïc.
J'ai tenté d'être en prise avec l'actualité et de parler d'œuf de Pâques, donc d'œuf en chocolat.
L'historien qui se penche sur l'œuf en chocolat et qui est arrivé les mains vides en plus.
Oui, absolument, parce que je viens ici pour manger, c'est ça en fait.
C'est ça. Les recettes de Christine Légeret ainsi que toutes nos adresses, nos podcasts, c'est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
En ce dimanche de Pâques, mes amis, moi, j'ai mon petit cadeau. Moi, j'ai apporté, contrairement à Loïc Bienassi du chocolat, je vous offre une petite surprise cacaotée. C'est une tablette de chocolat, pour être plus précis. Pourriez-vous poser quelques mots dessus, Elvira Masson?
J'ai déjà commencé à le croquer.
Je vois ça.
Je reconnais à l'œil déjà quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux.
Et ben voilà, on ne peut rien vous cacher.
C'est une trend TikTok.
Et oui.
Pardonnez l'expression, qui correspond à un produit qui viendrait de Dubaï.
Voilà.
Et qui s'appelle le Chocolate of Dubai ou Dubai Chocolate.
C'est
ça. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Maintenant, je vois mieux.
Chocolat de Dubaï. Alors, pour ceux qui ont des ados à la maison, c'est mon cas. Évidemment, on a forcément été contaminé par ce virus qui part bel et bien de Dubaï et qui a créé un véritable buzz mondial, le chocolat de Dubaï. Est-ce que vous pourriez le décrire gustativement, Christine?
Alors, il y a du chocolat au lait, bien sûr. C'est un petit peu croustillant, mais j'arrive pas à définir.
Oui.
C'est assez sucré.
Alors, le croustillant, c'est vraiment un trait caractéristique de ce chocolat, en effet.
C'est très sucré et c'est vert. Je me dirais qu'il y a de la pistache.
Bravo.
Mais... Ça se voit à l'œil qu'il y a de la pistache, mais j'avoue qu'au goût, moi, je ne l'ai pas débusqué. C'est très, très sucré.
Très sucré, c'est aussi une des autres caractéristiques de cette création, en effet. Le chocolat de Dubaï, on ne parle que de lui, ou Dubaï Chocolate, c'est le nouvel électrochoc culinaire qui secoue TikTok et les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Et en effet, tout le monde en parle. Alors, vous vouliez en savoir un peu plus, Elvira, je vous raconte l'histoire en deux mots. L'entrepreneuse anglo-égyptienne Sarah Hamouda aurait inventé, au sein de sa chocolaterie dubaïote Fix, une tablette directement inspirée du knafé. Vous connaissez ce dessert de la tradition levantine à base de kadaïf. Vous savez, ces cheveux d'ange de blé croustillant, c'est ça, Christine, qui crée la croustillance dans le fourrage. C'est une tablette de chocolat au lait, assez épaisse, vous l'avez remarqué, qui renferme donc cette garniture à la crème de pistache. Bien joué, Christine. Il y a également du tahiné. Ça, c'est la crème de sésame. Et il y a ces fameux kadaïf, ces cheveux d'ange grillés qui apportent effectivement ce côté, on dirait crunchy, ce côté croustillant. La vidéo de dégustation de l'influenceuse culinaire Maria Vieira, publiée en décembre 2023, a été vue plus de 100 millions de fois, à tel point que Chocolat de Dubaï a même désormais sa propre page Wikipédia. À tel point aussi qu'il faut débourser, ça c'est carrément délirant, plus de 100 euros pour se procurer une tablette sur les sites marchands. Voilà qui laisse songeur et qui procure au petit Émirat. Une grande campagne de promotion à petits frais quand même, hein. Chocolat de Dubaï, tout d'un coup, voilà.
C'est pour ça qu'on a droit qu'à un carré chacun.
Alors que ce n'est pas franchement un terroir, mais attention, écoutez bien. Les industriels du chocolat, comme les artisans chocolatiers, surfent sur la tendance. Lindt a sorti une tablette dans le style de Dubaï à 9,99€, spécial foutage de gueule. Notre réalisatrice a essayé d'en trouver au supermarché sans succès, c'est quand même très cher pour une tablette industrielle. Lidl a riposté avec une tablette à 4,99€. Ah ouais. Du côté des artisans, écoutez bien, Michel Cluzel a lancé pour les fêtes de fin d'année 2025 une série limitée de 2025 tablettes. Le chocolatier engagé Encuentro propose même une tablette 70% fourrée à la pâte de pistache d'Iran bio.
Elle doit être bonne, la leur.
Et vous avez dégusté la version artisanale de Maison Alep. La formidable pâtissière d'origine syrienne Myriam Sabet a concocté cette tablette de chocolat garnie de praliné pistache croustillant et de kadaïf. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une réussite.
Bon. C'est très sucré.
Preuve qu'on peut, on peut s'inspirer d'un buzz absolument délirant et d'en faire une jolie tablette. Alors, il est vrai, régressive, sucrée, particulièrement gourmande. Il y a lui qui est en train de s'évanouir, carrément. Mais bon, voilà, on vous a concocté évidemment une petite sélection de toutes ces tablettes de chocolat de Dubaï sur notre site internet et vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission, Pascal, avec Jérôme Ragano, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. L'œuf dans tous ses états avec notre invitée Christine Légeret. C'est juste après Anxiety de Doechi, choisi par l'ami Djoubaka sur notre playlist. Joyeuse Pâques et bon appétit sur France Inter. Christine Légeret, dans l'introduction de votre livre, vous écrivez, je l'ouvre à la page 4 et je vous cite, « L'œuf est un aliment de base, il est cuisiné pour lui-même, pour ses multiples saveurs et textures qui découlent des différents modes de cuisson et associations culinaires. Il entre également dans la confection d'innombrables recettes pour son pouvoir liant, afin d'épaissir des sauces, ou comme base dans les gâteaux entre autres. Dans ce livre, nous nous intéressons aux recettes qui mettent l'œuf à l'honneur sur le plan gustatif, et vous ajoutez... avec sa saveur umami. Ça y est, le mot est lâché. C'est vrai qu'on utilise souvent le mot umami dans les dégustations, au risque d'avoir quelques reproches de nos auditeurs et auditrices. Mais là, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Alors donc, l'œuf serait porteur de cette fameuse saveur umami. Expliquez-nous.
Voilà, alors en effet, l'œuf fait partie des aliments à la saveur umami. C'est dû en fait à l'acide glutamique qui est contenu dans le jaune.
Donc il y a effectivement du glutamate dans le jaune qui provoquerait ce bien-être gustatif, cette profondeur de goût. Alors ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Un œuf, ça se compose comment globalement? Il y a donc un jaune et il y a un blanc. Ce sont des protéines et pas mal d'autres nutriments?
Oui, protéines, lipides, il y a beaucoup de minéraux, oligo-éléments... Ça fait partie des meilleures protéines qui existent pour l'homme. Mmh. D'ailleurs, les protéines ont été longtemps considérées comme protéines de référence par les scientifiques, parce qu'elles sont riches et variées. Ils contiennent aussi beaucoup de vitamines.
Très bien, voilà, du phosphore, du fer.
Voilà, ils sont assez complets et très bons pour la santé.
Bon, ça on verra ça avec Elvira et on va voir qu'il n'en a pas toujours été. Il y a eu débat effectivement sur l'œuf et c'est une mise en perspective que va nous ouvrir Elvira tout à l'heure. Alors en parlant de la saveur umami, cette cinquième saveur, c'est un mot japonais qui signifie délicieux. On va se mettre dans le bain avec une recette extraordinaire que vous nous avez apportée, inspirée précisément du pays de l'umami.
Oui, c'est ça. C'est une recette que j'ai adaptée d'une recette japonaise. C'est un flan salé. Il est fait à partir de bouillon. Alors, on peut adapter les bouillons. On peut faire à partir d'un bouillon d'hachi, comme dans cette recette. Mmh. On peut le faire à partir d'un bouillon de poulet, de crevettes. C'est donc mélangé avec des œufs. C'est battu et ensuite filtré pour avoir une texture soyeuse et ensuite cuit à la vapeur.
Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Alors, dégustation.
C'est extrêmement léger.
Oui.
Un petit nuage en bouche, c'est étonnant. Ouais.
Elvira.
Et puis, c'est fin, délicat et en même temps, ça a énormément de goût. C'est à la fois subtil et puissant et la texture est vraiment très réjouissante. Quoi.
La recette japonaise originelle s'appelle Shawan Mushi. Shawan signifie bol à thé, mushi signifie vapeur. C'est cette crème aux œufs à la vapeur, très soyeuse. Alors, il y a l'umami de l'œuf, on l'a compris, et puis il y a l'umami du bouillon. Le bouillon d'hachi, vous évoquez un bouillon japonais à base de bonites séchées et d'algues kombu, mais on peut franciser l'affaire en remplaçant ce bouillon d'hachi, comme vous l'avez dit, par d'autres bouillons.
Voilà, on peut aussi adapter la recette en mettant des garnitures au choix. Donc là, j'ai mis des shiitake, qui ont aussi une saveur umami, et je l'ai parsemé d'une petite sauce, d'un mélange d'huile de sésame, de sauce soja et de ciboule.
Qu'est-ce que c'est bon! Combien de temps pour la cuisson à la vapeur, sachant que vous avez réparti l'appareil aux œufs dans différents petits bols et vous les avez disposés dans un panier vapeur?
Voilà. Alors, une vingtaine de minutes, mais il faut vraiment surveiller parce que la cuisson est très délicate. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, sinon ça fait un petit peu comme une omelette. Donc, on surveille la cuisson, on pique avec un couteau. Si le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit.
On se régale et la recette est à retrouver sur France Inter. À la page On va déguster. Christine Légeret, selon une enquête CSA pour le Comité national de la promotion de l'œuf, 97% des Français consomment des œufs, dont près de 9 sur 10 toutes les semaines. Est-ce que ça vous étonne, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule L'œuf quotidien?
Non, ça ne m'étonne pas. C'est l'aliment que tout le monde a dans sa cuisine, qu'on peut cuisiner facilement quand on n'a rien à manger. C'est très pratique. Les enfants adorent ça. Moi-même, j'en mange, allez, peut-être deux par jour. Donc,
Et c'est pour ça que vous lui consacrez un livre de recettes à la fois très pratique qui contient toutes les infos importantes autour du choix de l'œuf. On va justement s'intéresser à sa consommation, à ses modes de cuisson. Pour commencer, Christine Légeret, quel genre d'œuf vous consommez au quotidien?
Alors, les œufs que je consomme sont plutôt bio. Mm-hmm. Ça leur confère évidemment une qualité gustative. Et puis, à tout ce qui va autour, c'est-à-dire le bien-être animal. Mm-hmm. Parce que les œufs bio sont produits avec des poules élevées en plein air.
Vous les achetez à l'épicerie, au supermarché, directement chez le producteur ?
Souvent directement chez le producteur.
Vous avez cette chance-là ?
Oui, ils ne peuvent pas fournir...
On peut citer un nom ?
Malheureusement, j'ai pas vraiment de nom parce que mon producteur a déjà pas assez d'œufs pour satisfaire ça.
Elle veut garder, ah, d'accord.
Voilà.
Elle veut garder ses plans pour elle. Eh bien, je peux vous dire, Christine, que si vous habitiez dans la région lyonnaise, vous iriez à coup sûr acheter vos œufs, écoutez bien, chez une productrice engagée. Elle s'appelle Camille Stoulz et elle élève depuis 2022 des poules pondeuses dans le Beaujolais. Notre reportrice Salomé Costagliola est allée lui rendre une petite visite.
Alors, vous êtes à la ferme de la Grignette, donc on est sur la commune de Ternan dans le Beaujolais. Ici, c'est les monts du Beaujolais et on est vraiment sur un cré, donc on est plutôt en hauteur, à 400 mètres d'altitude, pas très loin d'une forêt. Donc j'élève des poules pondeuses en agriculture biologique qui vivent dans la forêt.
Vous m'emmenez faire un petit tour ?
Ouais, on va y aller. Par contre, on va pas y aller comme ça. Il va falloir quitter cette jolie tenue de parisienne. Citadine. Et il va falloir s'équiper puisqu'on a des normes sanitaires à respecter, donc on a un sas sanitaire, on va se laver les mains, et puis voilà, on va aller voir nos poulettes. J'ai 300 volailles par bâtiment, et j'ai 3 bâtiments, donc 900 volailles sur la ferme, quand tout le monde est au complet.
Allez, c'est parti. Allez.
Donc moi j'ai que des poules pondeuses rousses, de toute façon en bio c'est difficile de trouver autre chose. Hop, j'en attrape
une poule.
Voilà, j'attrape une poule. Bah, la poule rousse, elle a un joli plumage roux. Elle doit avoir une crête rouge bien développée. C'est des pondeuses qui sont particulièrement charpentées, on va dire. Et elles vont pondre des gros œufs. Vous allez voir que les œufs qu'on va ramasser, ils sont particulièrement gros.
Vous êtes en agriculture biologique. Vous les nourrissez de quoi et comment, vos poules ?
Alors, moi, j'achète des granulés complets de poules pondeuses. Il y a principalement du blé, de l'orge, du maïs, évidemment. Et c'est ça aussi qui va un peu colorer les jaunes. Du carbonate de calcium, donc c'est aussi ce qu'on retrouve dans les coquilles d'huîtres que je vais leur donner qui vont leur permettre de faire la coquille. Hyper important. Et puis, il y a des vitamines et des oligo-éléments pour pouvoir assurer la ponte régulièrement.
Et donc là, le premier poulailler est entouré plutôt d'un terrain vallonné avec des roches, des arbres, etc. Et il y a une autre partie un peu plus en forêt. C'est quoi l'avantage en fait que les poules elles évoluent dans un milieu comme ça qui n'est pas une surface plane avec juste de l'herbe ?
Alors en fait, faut savoir que la poule, c'est un animal qui est originaire de la jungle. Et la poule a toujours évolué sous un arbre. Déjà parce que c'est un volatile qui est petit, qui est assez fragile et qui du coup a énormément de prédateurs. Là, on est sur un parcours sur lequel je vais avoir des merisiers, des pruniers sauvages. Donc à partir du mois de mai, juin, juillet, j'ai des fruits sauvages en fait qui vont se mettre à tomber, dont elles sont super friandes. Elles vont attraper les jeunes pousses. En automne, j'ai les feuilles qui vont tomber. En fait, les poules mangent aussi les feuilles.
Et donc j'imagine que ça se retrouve aussi dans le goût et la qualité de l'œuf.
C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent que les œufs ont vraiment un goût... un bon goût, quoi, un goût particulier. Je pense que ce qui fait aussi vraiment la qualité de l'œuf, c'est sa fraîcheur. Clairement, on est sur une exploitation où moi, je vends uniquement des œufs extra frais. Donc un œuf extra frais, il faut qu'il ait maximum 9 jours. Et ça, ça fait une énorme différence avec tous les œufs qu'on peut trouver dans le commerce parce que même s'ils sont livrés à un stade extra frais, ils vont rester en rayon et ils vont vite avoir une semaine, 10 jours. Le temps qu'on les consomme, ils vont vite avoir 2-3 semaines. Et ça, ça fait aussi une grosse différence. Donc clairement, il y a la qualité de l'alimentation, le bien-être de la poule parce qu'une poule stressée, de toute façon, moi, je suis persuadée que ça se ressent dans l'œuf. Une poule qui se sent bien va faire un bon œuf. Moi, mon objectif principal quand je me suis installée, c'était de ne pas tuer mes poules. Et du coup, je les vends ce qu'on appelle des poules de réforme. Donc la poule de réforme, c'est une poule qui est passée par un élevage dans la première partie de sa vie et qui va pouvoir finir le reste de ses jours en retraite à la campagne en général, mais en tout cas dans le jardin d'un particulier. J'ai jamais eu à aller à l'abattoir, donc j'espère que ça va continuer.
On part à la chasse aux œufs.
Allez, on y va. Donc dans le poulailler, on a des perchoirs. Ça va être essentiel pour le bien-être de la poule. Elles ont besoin de se percher au moment du sommeil. Par ailleurs, il y a également les mangeoires auxquelles elles ont accès. Donc moi, je donne de la nourriture en continu. Et le dernier élément, qui n'est pas le moins important, ce sont les pondoirs. Donc la ligne de pondoirs, vous allez la voir tout au bout. En fait, elle rentre dans ces pondoirs, mais nous, on va aller récupérer les œufs de l'autre côté. Donc l'enjeu, c'est qu'elles, elles n'aient pas forcément accès aux œufs qu'elles pondent, parce que sinon elles vont avoir tendance à les salir, elles vont avoir tendance à essayer de les picorer, et donc s'il y a une petite faille, c'est comme ça qu'elles vont les casser, elles sont très friandes de leurs propres œufs.
Et la plupart du temps, une poule pondeuse, on va dire, dans son âge d'or, elle va pondre tous les jours, et elle va pondre un ou plusieurs œufs.
Alors, la poule ne peut pas pondre plusieurs œufs pour la simple et bonne raison qu'elle met 24 heures à faire son œuf. Donc moi, là, sur 300 poules, en moyenne, quand tout va bien, je ramasse 240 œufs par jour. Et c'est tous les jours.
Il arrive que des poules pondent vers 16, 17, 18 heures ?
Oui, ça peut arriver. Après, c'est vraiment à la marge. Hein. J'en ai peut-être une dizaine. C'est comme dans toute société, il y a des dissidents, des anarchistes qui ne veulent pas suivre la règle.
On passe à la récolte ?
Allez, on y va. Donc on va rentrer par derrière. Donc moi maintenant, j'ai pris l'habitude, j'en ai 4 en même temps, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous pouvez en prendre un par un.
Je crois entendre un son au loin.
Oui.
Vous diffusez de la musique aux poules ?
Ouais, je mets de la musique. Alors parfois je mets France Inter, France Culture aussi, parce qu'il faut que j'alterne. Bah, déjà les poules aiment bien ça. Mais surtout j'ai ce fameux autour des palombes, ce rapace qui m'attaque. Et en fait la radio éloigne ce rapace. Donc là le soleil est revenu parce qu'on a eu quand même un hiver avec beaucoup de pluie. Et là, vraiment, mais on sent qu'elles revivent, quoi. Elles sortent, elles se mettent au soleil, comme nous, quoi.
L'élevage modèle de Camille Stoulz dans le Beaujolais, c'est chouette de constater qu'il y a des élevages comme ça qui, d'ailleurs, décident de ne pas sacrifier les poules, mais au contraire de les confier à des particuliers pour qu'elles aient une fin de vie douce.
Oui, je pense qu'effectivement, cette éleveuse fait un bon travail.
Tout le monde n'a pas la chance, évidemment, d'aller en direct chez le producteur ou la productrice pour acheter ses œufs. On va souvent en supermarché, c'est la réalité de nous tous et des Français. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme mention sur la coquille ou sur l'étiquette pour être à peu près sûr de manger des bons œufs ? Alors, il y a la notion de bio, vous l'évoquiez, qui est indiquée en général tout simplement sur la boîte d'œufs, mais oui, également sur la coquille avec le numéro 0.
C'est ça. Zéro, c'est effectivement une production biologique. Donc les poules gambadent dehors et elles ont une alimentation biologique. Mm-hmm. Le numéro 1, elles sont élevées en plein air. Alors attention, parce que élevées en plein air, ça peut être un peu tendancieux. Elles peuvent être sous hangar et avoir juste une petite promenade en plein air. Mm-hmm. Et le numéro 2, c'est élevé au sol dans un bâtiment. Donc là, elles sont à 7 par mètre carré. Mm-hmm. Et 3, c'est en cage. Bon, alors là, c'est vraiment...
Disons-le franchement, on évite le numéro 3.
Oui.
C'est des conditions d'élevage plutôt concentrationnaires.
Oui, c'est ça, même le 2.
Ensuite, il y a évidemment les chiffres. Alors, il y a l'origine du pays, FR, il s'agit de la France.
Ensuite, on a 3 lettres qui correspondent à l'élevage, en fait. Mm-hmm. Et le dernier chiffre correspond au bâtiment où sont les poules. Voilà.
La grande question, c'est comment reconnaître ou comment évaluer la fraîcheur d'un œuf. Évidemment, on a entendu ces œufs extra frais, on n'a pas tous la chance d'y avoir accès. Sachant qu'extra frais, c'est 9 jours après la ponte.
Exactement.
Enfin, de la ponte jusqu'à 9 jours.
Voilà, c'est ça. Ils sont considérés comme extra frais jusqu'à 9 jours. Mm-hmm. Et la mention extra ou extra frais sur la boîte. Aussi, la date de ponte et la date des 9 jours.
Alors, la DCR, date de consommation recommandée, dites-vous, est indiquée sur la boîte. Elle est calculée à partir du jour de la ponte. La limite est fixée à 28 jours plus tard, officiellement. Les œufs ne peuvent être vendus au-delà de 21 jours après la date de ponte.
Oui, pour reconnaître un œuf frais, si un œuf est frais, on a une méthode très simple, c'est le test de la plongée. On plonge l'œuf avec la coquille, bien sûr, dans une carafe d'eau. Mmh. S'il reste au fond allongé, c'est qu'il est extra frais. S'il se met à la verticale, mais qu'il est encore au fond, il est encore frais, il n'y a pas de souci. S'il commence à remonter, ça veut dire qu'il est un peu vieillissant,
oui,
mais il peut quand même être mangé. Donc on le casse de préférence pour voir s'il est quand même mangeable.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est le deuxième test. Si on a un doute, donc il ne doit pas dégager de mauvaise odeur. Si le jaune est percé, c'est signe qu'il est quand même bien avancé.
Ah, là, on fait attention.
Si l'odeur... correct, on peut quand même l'utiliser dans une préparation bien cuite, un gâteau.
Un gâteau, voilà. C'est ça.
Oui.
Une question que se posent de très nombreux auditeurs et auditrices, la fameuse question frigo ou pas frigo pour conserver ses œufs à la maison? On entend tout et son contraire. Tranchez, s'il vous plaît, Christine.
Alors non, moi je ne les mets pas au frigo. En fait, l'œuf a une couche protectrice sur la coquille, la cuticule, et qui protège l'œuf des bactéries extérieures. Donc naturellement, l'œuf est protégé. Par contre, on ne lave pas ses œufs, bien évidemment, parce que sinon, on enlève cette couche protectrice. Donc voilà, même si on a un poulailler et qu'on ramasse des œufs qui ne sont pas très propres, on les met dans un petit panier de côté et puis on les lave éventuellement au moment de les casser.
Voilà. Il paraît en revanche que si on les conserve à température ambiante, il faut quand même faire un tout petit peu attention aux écarts de température, parce que dans les supermarchés où effectivement les œufs ne sont pas au rayon frais, en général, les températures sont plutôt fraîches et régulières.
Évidemment, on ne les met pas en plein soleil, mais sinon, ils se conservent quand même à température ambiante sans problème.
On va déguster. Sur France Inter.
Faut-il réhabiliter ou non nutritionnellement l'œuf? C'est la question qui vous intéresse, Elvira.
On a rappelé depuis le début de l'émission que l'œuf était un aliment de base et pas cher. C'est pas tout à fait le cas partout. Vous avez sans doute ces dernières semaines entendu parler de eggflation.
Eh oui, ce mot valise.
Ouais, c'est ça. Contraction de egg et inflation. C'est le terme que les médias américains ont inventé pour parler de l'envolée du prix des œufs depuis un an aux États-Unis. Ils atteignent parfois plus de 10 dollars la douzaine, jusqu'à 20 dollars la douzaine à New York, au point qu'on les trouve désormais à l'unité et que des chaînes de restaurants répercutent cette hausse des prix sur leurs cartes. Waffle House, par exemple, qui est une chaîne de restaurants de petit-déjeuner en Géorgie, dans le sud des États-Unis, a annoncé ajouter un supplément de 50 cents pour chaque œuf vendu. Phénomène concomitant, l'arrivée sur le territoire américain d'œufs de contrebande, venus du Mexique, où ils se vendent 2 euros la douzaine, sous les effets combinés donc de l'inflation, mais aussi, et c'est lié, des épidémies de grippe aviaire qui se succèdent depuis 3 ans. Plus de 160 millions de volailles ont été abattues ces 3 dernières années, dont 14 millions de poules pondeuses rien qu'au mois de janvier dernier. Or, les Américains sont des champions de la consommation d'œufs, 5 par semaine en moyenne. Pour faire face à cette situation inédite, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'élevage de poules à domicile. Voilà, c'est une solution. Quand on n'a pas de producteur près de chez toi, on peut devenir éleveur soi-même. Ça fait penser un peu au premier confinement, quand on rêvait tous d'un potager, qu'on s'est mis à cultiver son levain et qu'on regardait des tutos pour construire un poulailler dans son jardin. Ce qui voulait dire, et veut toujours dire, et votre livre nous le confirme, que l'œuf est un indispensable de notre alimentation quotidienne. Il n'en a pas toujours été ainsi. Moi, je me souviens, et vous sans doute aussi, des années 80-90 où on comptait le nombre d'œufs qu'on mangeait par semaine en se rationnant. On se disait qu'il fallait faire attention et que le pire des gros mots à l'époque était cholestérol.
Absolument.
Il faut dire qu'au fil du temps, le sujet de l'impact des œufs sur la santé a été un peu compliqué à suivre. C'est même un peu un feuilleton à rebondissement. Dans les années 60, au Royaume-Uni, le Egg Marketing Board, mis en place par le gouvernement, conseillait de consommer un œuf avant d'aller travailler. Il y avait même un slogan publicitaire qui était « Go to work on an egg ». Dans les années 70, il faut là au contraire éviter les œufs parce qu'on les accuse d'être liés à l'hypercholestérolémie. Ça dure dans les années 80, bien sûr, avec une couche de problèmes supplémentaires. Les œufs crus sont associés au risque d'empoisonnement à la salmonelle. À la fin des années 90, enfin, la revue médicale américaine JAMA, Journal of the American Medical Association, publie une étude qui prouve qu'aucun lien n'a pu être établi entre la consommation d'œufs et le risque de maladies cardiovasculaires, sauf chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Plus avant, en 2018, une étude chinoise, cette fois, fait le lien entre diminution de l'incidence des maladies cardiovasculaires, principalement les attaques cérébrales, chez les consommateurs réguliers d'œufs. Les raisons en demeurent incertaines, mais pourraient être attribuées à l'apport des œufs en protéines, ce que vous disiez tout à l'heure, Christine, ce qui coïncide avec des études antérieures menées au Japon, les Japonais étant de grands consommateurs d'œufs.
Et comment ?
À coup de shawanmushi, entre autres. Mais le retour de l'œuf tueur se fait en 2019. Une étude publiée de nouveau dans le même JAMA a suivi des participants pendant une quinzaine d'années. Il en résulte que sur les patients souffrant de problèmes cardiovasculaires, chaque œuf consommé était associé à une augmentation de 2,2% du risque absolu de maladie cardiovasculaire. Pas simple, hein. Je pense, François-Régis, qu'à ce stade, vous serez d'accord pour qu'on laisse le mot de la fin à un certain Anthony Berthoud.
Ah bah oui, notre nutritionniste préféré, on le reçoit bientôt d'ailleurs dans cette émission.
Le 4 mai.
Oui, c'est ça, dans 15 jours.
Il viendra justement clarifier et tordre le cou à pas mal de préjugés nutritionnels à l'occasion de la sortie de son formidable nouveau livre « Remettez du bon sens dans votre assiette ». Et je schématise un peu son propos sur une note un peu positive. La consommation d'un à deux œufs au petit déjeuner est idéale, autant pour votre vitalité que pour réguler votre taux de cholestérol. On peut largement dépasser les 3 œufs par semaine.
Oui.
On est content, non ?
Oui, on est content. Bon.
Et quand je vous disais que l'œuf, le sujet de l'œuf est omniprésent en ce moment, les grands cahiers 180 degrés consacrés à l'œuf, publiés chez Hachette Cuisine, c'est le premier numéro d'une collection de revues monomaniaque sur un thème unique. Pour tout savoir sur l'œuf, tiens d'ailleurs on y trouve les 10 commandements pour installer son poulailler dans son jardin,
très
si
bien.
Ça vous intéresse.
Oui.
Des recettes formidables, des leçons de choses, c'est beau, instructif, 20 euros et c'est cadeau pour vous, Christine.
Et c'est grand, grand format pour, pour cette revue.
Merci.
Dans votre bouquin, l'œuf quotidien, Christine Légeret, il y a toute une liste de termes techniques, culinaires, adaptés à l'œuf, clarifiés.
Oui, clarifié, c'est séparer le jaune du blanc.
Blanchir.
Blanchir, c'est battre l'œuf pour qu'il mousse.
Écaler.
Écaler, c'est enlever la coquille.
Ah, enlever la coquille. Alors parfois, vous savez, ça accroche un peu.
Oui.
De temps en temps, la coquille et la membrane viennent toutes seules et on a un œuf luisant, tout lisse, tout beau. Et de temps en temps, c'est un petit peu un champ de bataille, la surface de l'œuf, parce qu'on arrache des petits morceaux de membrane blanche.
C'est ça.
C'est lié à quoi, ça hein?
Très énervant. Alors, en fait, déjà, le choix de l'œuf, au départ, est primordial. Mm-hmm. Plus l'œuf est vieillissant, mieux il s'écalera, en fait.
Ah, donc il vaut mieux choisir
voilà.
vieux œufs.
Voilà,
c'est ce que vous
c'est
êtes
ça.
En train de nous dire.
C'est ça. Parce qu'en fait, de l'air va rentrer dans l'œuf, par oui. la chambre à air, mm-hmm. et vient se mettre entre la petite peau, justement, la membrane et la coquille. Donc, ça va faciliter l'écalage. Alors ensuite, dans l'eau de cuisson, on rajoute du sel ou un acide, donc soit du vinaigre, soit du citron. Ça facilite aussi l'écalage.
Okay.
Et ça évite que la coquille éclate.
Voilà, tout, ouais. aussi. S'il y a une petite fissure dans l'œuf, le blanc d'œuf qui va sortir va tout de suite coaguler et colmater la fissure. À la fin de la cuisson de oui. l'œuf, ce qui est important, c'est de plonger les œufs dans de l'eau froide, très froide même. On peut ajouter des glaçons. Donc déjà, ça stoppe la cuisson de l'œuf. Et ensuite, ça permet d'avoir une condensation qui se crée entre la coquille de l'œuf et la membrane. Et ça permet un meilleur écalage aussi.
Dans un instant, on déguste grâce à vous une recette dont j'ignorais l'existence et pourtant on a consacré à la cuisine colombienne il y a quelques temps avec l'ami Juan Arbeles une émission entière à la Colombie et le changua.
La changua.
Changua,
oui.
pardon. J'y suis pas du tout. La changua, vous allez nous raconter et nous cuisiner, nous faire goûter cette recette étonnante dans un instant.
Un bon fermier découvrit un matin dans sa basse-cour une poule fort étrange.
Tiens donc, Mélie, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait.
Notre ami Joe Baca nous fait découvrir La poule Zazou, un titre très méconnu signé
Charles Trenet, non ?
Bravo ! Enregistré en
1936.
Non, en pleine occupation, 1942.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
L'œuf, de la ponte à la cuisine, en passant par sa consommation, sa nutrition, sa cuisson, ses cuissons, parce qu'on va parler de différentes cuissons. Et bien, on en parle avec vous, Christine Légeret, autrice de L'œuf au quotidien, recette aux œufs pour tous les jours, chez First Edition. Un bouquin, vous l'aurez compris, qu'on a beaucoup apprécié et qui pourrait devenir un vrai livre référence en matière de cuisine autour des œufs. Quelques questions d'auditeurs et d'auditrices sur nos réseaux sociaux et sur notre mail. Et il y en a une question piège, carrément, adressée à l'ami Loïc Bienassi. Une question de Maria de Bordeaux qui nous demande, oulala, question érudite et pointue, je ne sais pas si vous êtes équipé. À quand remontent les premiers livres de cuisine entièrement consacrés à l'œuf ?
Alors au 19e siècle...
Et vous avez la réponse.
Au 19e siècle, il y a d'abord, j'ai envie de dire, il y a tout un tas de livres de cuisine qui consacraient des chapitres à l'œuf. Si on prend 1903 et Escoffier, le guide culinaire, il y a un chapitre exclusivement sur les œufs. Mais le premier livre, alors à ma connaissance, consacré aux œufs exclusivement, la monographie, j'allais dire, c'est 1878, un certain Marius Berthe, dont le titre exact m'échappe, mais je crois qu'il y a 125 recettes. Et ensuite, il y a eu comme ça, une succession d'ouvrages entre la fin du 19e siècle, début 20e siècle, notamment un certain, alors on ne connaît pas son prénom, mais Bote, qui, dans un ouvrage, alors je dirais 1907, c'est peut-être à vérifier, donne 1000 recettes. Finalement, votre livre s'inscrit dans une tradition bien installée.
Absolument.
Et avec certainement, j'ai envie de dire par contre, une ouverture sur le monde qui était moindre dans ces ouvrages du 19e siècle, début 20e siècle.
Attention, question piège pour tout le monde autour de ce plateau. Parmi les différentes recettes d'œufs, quelles sont, selon vous, les deux préparations aux œufs qui arrivent en tête des recettes préférées des Français ?
L'omelette.
Bah oui.
Alors, l'omelette, c'est la numéro 2. Et
je
la première ?
Œuf mayo.
Non.
Sur le plat ?
Bravo. L'œuf au plat remporte Loïc la première place avec 27% des Français qui se prononcent en sa faveur. Et l'omelette, elle vira en deuxième position avec 22% des Français. Voilà, l'omelette est décidément un grand classique. Et il y en a un, des omelettes.
J'ai vu une omelette sucrée.
Oui, c'est étonnant.
Une omelette sucrée à la banane.
Oui, à la confiture, au chocolat.
Pas mal ça pour Pâques.
Ouais.
Il y a même une omelette dont on a parlé récemment d'origine perse. Ça, ça vous dit quelque chose, Elvira ?
La grande recette iranienne d'omelette. Enfin, c'est même pas une omelette, c'est du végétal, des herbes prises à l'œuf, en quelque sorte.
Mais c'est vrai que pour Pâques, il y a dans certaines régions des traditions de recettes d'œufs, et notamment d'omelettes. Je crois que c'est peut-être en Béarn, par exemple. La valorisation des œufs pour Pâques, ce ne sont pas que les œufs en chocolat. Et puis d'omelette sucrée, alors là c'est encore autre chose, mais c'est un grand classique de la cuisine française, au fond.
Et bien, en parlant de grand classique, on va voir si. Elle les connaît, ces classiques, Christine. On parle cuisson. Le temps de cuisson d'un œuf coq.
Alors, 3 minutes.
Ça dépend de la grosseur de l'œuf ou c'est 3 minutes en moyenne ?
Un œuf de taille moyenne qu'on trouve en général dans les supermarchés. Évidemment, si on a un œuf plus gros, hors calibre, on augmente un petit peu le temps de cuisson, mais 3 minutes, c'est bien.
L'œuf mollet ?
L'œuf mollet, 5 minutes.
Ça peut être 6 ?
5 minutes, le jaune est bien coulant. 6, il devient un petit peu plus crémeux.
On raconte beaucoup de choses sur la cuisson de l'œuf dur. La Somme, l'association de défense de l'œuf mayonnaise, s'en est évidemment mêlée, revendiquant que la juste cuisson d'un œuf dur, c'est 8 minutes et 40 secondes. Que pensez-vous de ce débat ?
Moi, je suis d'accord. 8 minutes, c'est bien, en fait.
Oui, mais 8 minutes et 40 secondes, c'est un peu snob.
8 minutes, 40 secondes, oui, c'est un petit peu, un peu précis.
Officiellement, quand on était tous un peu plus jeunes, c'était 10 minutes. Oui. Mais avec 10 minutes, en général, on obtient
un
jaune plutôt sableux.
Ouais.
Asséchant en bouche.
C'est ça.
Vers 8 minutes, on est plutôt sur un jaune couleur coucher de soleil.
Oui,
crémeux, gras.
Crémeux. Oui, voilà.
Très bien. On retourne, si vous le voulez bien, chez Camille Stoulz. Vous vous souvenez, hein, l'éleveuse de poules rousses dans le Beaujolais. Elle va nous cuisiner spécialement pour nous les œufs de ses propres poules. Extra frais, évidemment.
Donc voilà le petit bungalow de la Grignette. Donc c'est pas super équipé parce qu'on vit pas ici, mais il y a quand même ce qu'il faut pour cuisiner. Des œufs cocottes aux champignons. En fait, l'idée, c'est de pocher ces œufs avant de les mettre dans le ramequin. Donc, ici, j'ai mes shiitakes qui sont tout frais, une échalote. Je pense que pour nous, on va faire 2 œufs chacun, donc on va prendre 4 œufs, de la crème fraîche, donc au lait cru, et j'ai aussi un peu de ras el hanout. Celui-là, il vient du Maroc, des saouiras.
Ah oui, ils sont à Nice.
Donc voilà. Donc on va allumer notre gaz. Et dans l'eau, une bonne rasade de vinaigre blanc.
On va d'abord faire revenir l'échalote avant les champignons.
Avec le beurre et l'échalote, là, c'est... ça donne très très faim.
On va laisser tranquillement fondre et puis on va s'attaquer à nos œufs pochés.
On casse l'œuf d'abord dans la petite tasse. Donc là, on a une eau qui est frémissante.
Voilà.
Vous allez créer un petit tourbillon dans l'eau, là,
donc
c'est ça ?
Donc là, en fait, je vais d'abord immerger délicatement mon œuf dans le... Hop, voilà. Et c'est là où je crée mon petit tourbillon pour qu'en fait, le blanc vienne enrober le jaune.
Il y a tellement cette poche qu'on dirait presque qu'on pourrait les déposer dans l'eau et ne même pas tourner, qu'ils resteraient en place. C'est assez fou.
Bah, en fait, c'est l'idée d'avoir un œuf extra frais, quoi. Alors là, il est extra, extra frais puisqu'il est pondu d'hier, donc c'est le top, hein.
Donc, la crème est dans les champignons.
Et donc, ce que je vais rajouter, voilà, c'est...
un peu de rice à la noûte. Ça sent vraiment très bon.
Donc après, il y a deux options. On peut avoir préparé, en fait, nos œufs pochés un petit peu en avance et qu'ils soient plus très chauds. Et je passe au grill. Et dans ces cas-là, moi, je peux râper un petit peu de fromage au-dessus. Ça peut être un peu de parmesan, ça peut être un petit peu de raclette fumée. Enfin, voilà. Donc moi, je propose qu'on se les mange comme ça. Vu qu'ils sont encore chauds, on va mettre les petits champignons au fond du ramequin. En fait, j'aime bien qu'on voit les œufs. On se met quand même un petit tour. Poivre, baie rose, un tout petit peu de fleur de sel. Parce que ce qui est quand même sympa, c'est d'avoir ce petit mordant du sel là quand on creuse le jaune. Et on va prendre notre petit pot de ciboulette. Parce que c'est trop joli quand même d'avoir un petit peu de vert. Et puis c'est sympa d'avoir le petit croquant de la ciboulette. Eh bien, je crois qu'on est prêt à déguster.
On va s'installer dehors. Déjà, c'est très, très beau.
Quand ils sont extra frais comme ça, le jaune, il est presque... Enfin, on pourrait presque l'attraper avec nos doigts, quoi.
On dirait qu'il a été confit, tellement il est ferme et fondant. Merci, Camille, pour ce bon repas. Et merci de m'avoir accueilli à la ferme de la Grignette. Est-ce que je peux ramener 4 douzaines d'œufs dans ma valise ?
C'est carrément possible. On va les servir dans le centre de conditionnement. Il faudra juste faire attention pendant le transport.
Elle fait drôlement envie quand même, cette recette d'œufs cocottes. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine ?
Oui, en effet. Alors, moi, j'ai une autre technique, en fait, pour pocher les œufs.
Parce que alors, c'est vrai que c'est un exercice super intimidant. L'histoire tout le temps, vous savez, de ce tourbillon, il faut mettre dans l'œil du cyclone, casser l'œuf pile au milieu pour qu'il ait une forme bien sphérique.
Et des fois, on a des surprises et le blanc s'échappe.
Le blanc vit sa vie parfois.
Oui.
Exactement.
Alors là, vous allez appliquer la technique du pochage de l'œuf à une recette que vous êtes allée chercher très très loin, Christine Légeret.
Voilà, c'est ça. En fait, j'ai une amie, Marine, qui a des origines colombiennes et qui m'avait parlé de cette recette délicieuse.
Rappelez-nous son nom.
La changua.
Alors, en quoi ça consiste ? Parce que je crois savoir que, a priori, vous n'étiez pas trop fan sur le papier.
Alors, moi, j'aime pas trop le lait, personnellement.
Vous n'êtes pas la seule.
Et cependant, on n'a pas vraiment le goût du lait. Et surtout, on ajoute beaucoup de coriandre, de la coriandre fraîche.
Mais on ne fait pas directement pocher l'œuf dans le lait ?
Ah si, on fait pocher l'œuf dans le lait.
Moi, ça me fait très envie.
Mais on veut goûter, en fait.
Alors, je prépare.
Vous avez fait chauffer quelle quantité de lait dans la casserole ?
Alors, 80 centilitres de lait et...
Ça, on est pour combien de personnes ?
4 personnes.
Très bien.
Et moitié d'eau, 40 centilitres d'eau. Si on veut pas faire de tourbillon et réussir son œuf poché à tous les coups, on le casse dans un petit ramequin, pas trop profond, assez plat et évasé.
Là, le mélange eau-lait est frémissant.
Oui. On coupe le feu. On pose délicatement son œuf au fond de la casserole.
C'est plus pratique que de casser directement l'œuf avec les coquilles.
C'est ça. Il tombe dans l'eau plus doucement.
Et de 4.
Alors, on ajoute la coriandre. Et on attend que les œufs soient bien pochés. On attend 3 minutes. Alors, on dispose des tranches de pain grillées au fond des bols. Je précise que quand on fait un tourbillon, on fait un petit tourbillon. On ne fait pas un énorme tourbillon.
Oui,
parce
on ne fait, fait pas un ouragan.
Voilà. Sinon, le blanc s'échappe dans tous les sens. Alors déjà, on prend un œuf bien, bien frais. Ce qui signifie que le blanc d'œuf va être très épais autour du jaune.
Oui, et se disperse moins.
Exactement.
Donc Camille Stoulsan nous l'a précisé. Plus l'œuf est frais, plus il est facile à pocher.
Voilà. Ensuite, on peut ajouter un petit peu de sel sur le blanc qui facilitera la coagulation.
Ah, pas mal.
Alors, je vérifie la cuisson de l'œuf. On dépose l'œuf poché sur cette tranche de pain.
Joli.
Ensuite, on verse le bouillon par-dessus.
Alors, il ne faut pas oublier, à la fin, c'est rajouter une bonne noix de beurre.
Ah oui.
Ah oui, c'est une grosse noix.
C'est une noix de coco. Enfin.
Ça, c'est pas la French touch. C'est bien comme ça que ça se passe en Colombie.
Je suppose, oui.
Les bols de changua circulent sous nos micros. On ajoute un petit peu de poivre, c'est ça?
C'est ça, un peu de poivre. Et on peut parsemer aussi de coriandre fraîche à la fin.
Ça fait très, très envie. Hein.
C'est beau, déjà.
À vos cuillères. Car c'est une cuillère qu'il faut. Hein.
Oui.
Voilà. Oh, c'est bon.
C'est bon, c'est réconfortant. C'est un peu enfantin, c'est très simple. Et puis la coriandre vient donner de la vivacité, de la fraîcheur à quelque chose qui est très lacté, très doux.
Alors quand on casse l'œuf et qu'il est au contact de ce pain grillé imbibé, c'est un régal. Oh là.
Les textures sont vraiment extra.
C'est gourmand. Gourmand et inattendu. La changua à faire en quelques minutes. Et la recette est dans votre livre L'œuf quotidien et sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci pour cette belle recette.
On va déguster.
Nous ne sommes pas historiens, mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
Sur France Inter.
Parenthèse, Pascal et gourmande avec notre historien maison Loïc Bienassicar. Vous n'êtes pas sans savoir, cher Loïc, qu'en ce dimanche de Pâques, il va y avoir pas mal d'œufs en chocolat cachés dans de nombreux jardins de France. Et vous allez nous raconter d'où vient cette tradition des œufs en chocolat.
Alors je vais essayer, en tout cas. À vrai dire, je vais même plus parler des œufs de Pâques que des œufs en chocolat, parce que c'est une histoire longue, et avant d'être en chocolat, bah, c'était des vrais œufs de poule, hein, tout simplement. Vous lirez sans doute qu'on peut faire remonter ça au premier siècle de la chrétienté, parfois on parle du 9e siècle, on va dire au Moyen-Âge. On a par exemple les contes royaux en 1290 du roi d'Angleterre, Édouard Ier, où on voit qu'ont été achetés par le roi 450 œufs, des œufs qui sont destinés à être colorés pour certains, ou recouverts de feuilles d'or pour d'autres, et ensuite pour être donc offert à la maison du roi. Tous ceux qui le servaient, si vous voulez. Donc il y a cet usage d'offrir des œufs à Pâques. De siècle en siècle, c'est de mieux en mieux documenté, si on veut. On voit notamment dans le monde germanique, en Pologne, en Europe de l'Est, même s'il est difficile d'établir une chronologie fine, dans différentes régions s'installent des pratiques souvent tournées vers les enfants. Des œufs qui sont donnés, des œufs durs ou des œufs frais, qui sont teints, notamment en rouge. C'est souvent la couleur qui prédomine, qui sont parfois peints, parfois décorés, parfois tout simplement naturels. Alors on voit des quêtes d'œufs, des jeux autour des œufs. On a par exemple un auteur strasbourgeois qui en 1624 témoigne que à Strasbourg, des œufs étaient teints en vert, en rouge, en noir, en bleu et d'autres manières encore. Alors c'est parce qu'on cuisait les œufs avec différents végétaux, par exemple pour donner du vert, ou avec des bois qui donnaient une teinte rouge. Donc il y a ces habitudes qui sont attestées dès la Renaissance de manière très très claire et même avant. On voit d'ailleurs que c'est très vivant dans le monde orthodoxe, les œufs colorés, et que ces fameux œufs de Fabergé que le tsar offrait notamment à son épouse, le premier à l'avoir fait, c'est en 1885, le tsar Alexandre III, c'est le joaillier Pierre-Carl Fabergé qui lui préparait ces œufs qui étaient des joyaux. Hein. Finalement, c'est l'expression la plus luxueuse de ces habitudes très très vivaces en Russie d'offrir des œufs à Pâques. Alors les origines... pas si simple, finalement, de les retracer. On parle d'hypothèses, d'héritage païen, etc. Bon, j'ai envie de dire, à la limite, peu importe. Ce qui ressort surtout là, c'est la symbolique de l'œuf, qui, dans de très nombreuses cultures, en fait, renvoie à l'idée de naissance, de fécondité, de résurrection, puisque je le rappelle, Pâques, c'est la grande fête chrétienne, devant Noël, j'ai envie de dire, traditionnellement, où on célèbre, bien sûr, la résurrection du Christ. Et Pâques marque la fin du carême aussi, et longtemps, ça a un peu cessé au XVIIe, XVIIIe siècle, mais on ne pouvait même pas consommer d'œufs durant carême. Ce qui fait que souvent on évoque l'hypothèse, ah oui, on mange des œufs à Pâques parce qu'on avait stocké les œufs durant carême, je ne crois pas que ça tienne vraiment la route. Et autre élément du folklore assez ancien, il y a les cloches, ces fameuses cloches. Alors là, ça tient au fait que du jeudi saint au samedi saint, l'Église pratiquait ce qu'on appelait le silence des cloches. On ne sonnait plus les cloches. Et s'est développé un folklore autour de ça, où on expliquait aux enfants que les cloches étaient parties à Rome et qu'elles reviendraient dans certaines régions. Elles reviendraient chargées d'œufs qu'elles déposeraient dans les jardins. Le lapin, les lapins qu'on connaît en chocolat, ben là, c'est plutôt une tradition vivace dans le monde germanique. C'est-à-dire, c'est pas un lapin, c'est plutôt un lièvre. Le lièvre de Pâques qui était censé rapporter, voire pondre, les œufs pour Pâques. Pâques. Bah alors, les œufs en chocolat là-dedans,
oui.
Quand est-ce qu'ils apparaissent? Alors, vous lirez évidemment, parce que sinon ce ne serait pas amusant, que les œufs au chocolat sont apparus sous Louis XIV. J'ai même trouvé le nom d'une certaine Giambone, une veuve piémontaise, puisque je crois que c'est à Turin, qui en 1725 aurait inventé les œufs en chocolat. Si on me montre les sources, je m'inclinerai, mais pour moi, c'est évidemment plutôt n'importe quoi. Et en réalité...
Oui, il ne faut pas vous étonner, Christine, il est définitivement sceptique sur beaucoup de choses, mais c'est ce qui en fait un historien sérieux.
Pour moi, on voit apparaître, notamment à Paris, des confiseurs qui vendent des œufs, et avant les œufs en chocolat, à mon avis, on trouvait surtout des œufs en sucre. Ça a été la première fois où il y a la bascule entre les vrais œufs et ces œufs, j'allais dire, gourmandises, si on veut. Alors peut-être les années 1810, les années 1820 à coup sûr, à Paris, cela apparaît de manière claire. On voit par exemple que, dans un article de 1837, on parle d'œufs en sucre remplis de pastilles. Un traité de l'office de 1846 explique comment réaliser des œufs de Pâques en sucre creux, coulés dans un moule, vide, on les garnit de petits bonbons et de surprises. Là, on est au milieu du 19e siècle, donc cet usage des œufs en sucre est complètement installé. Et le chocolat dans tout ça? Dans les années 1850, en Suisse, en Allemagne, en France, clairement, on trouve des œufs en chocolat, à Paris en tout cas à coup sûr. Donc est-ce que ça s'est développé chez les chocolatiers à partir des années 1830-1840? À mon avis, c'est le cas. On voit par exemple, article de 1858 dans la Semaine des enfants, c'est merveille de voir, durant la Semaine Sainte, les étalages des confiseurs et même ceux des épiciers. Tout le sucre, tout le chocolat prend la forme d'œufs de grosseur variée, depuis l'œuf mignon de colibri jusqu'à celui d'autruche qui renferme parfois un joli bébé tout habillé. Parce que ce qui se développe beaucoup, ce sont des œufs avec des surprises à l'intérieur. Une Anglaise explique en 1861, parce qu'elle visite Paris, et c'est souvent relevé par les étrangers, cette habitude parisienne, ces œufs sont toujours en deux parties, afin de pouvoir y insérer des bonbons, des jouets, des bijoux, et sont ensuite attachés ensemble avec des rubans de couleur vive. On est en 1861. Et ensuite, il y a la bascule vers l'industrie. Et là, j'ai le sentiment que c'est surtout en Angleterre que ça s'opère. C'est-à-dire qu'apparaissent les œufs au chocolat industriel, parce qu'il faut voir que l'industrie chocolatière anglaise était vraiment très puissante, avec Cadbury, par exemple. On est dans les années 1870, et là, on voit apparaître les œufs en chocolat industriel. Donc, en clair, finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit, j'allais dire, le visage artisanal ou le visage plus industriel de la chose, ben, ce qu'on connaît aujourd'hui se met en place progressivement au 19e siècle.
Merci beaucoup, Loïc. Vous avez cédé, Christine, à la tradition des œufs ou des cloches ou des lapins en chocolat à la maison en ce dimanche?
Alors oui, évidemment, en ayant deux enfants, on va chasser les œufs, je pense, dans le jardin, en effet.
Autre rubrique très intéressante de votre livre, c'est que vous évoquez des trucs et des stratégies pour recycler des jaunes ou recycler des blancs, c'est souvent le cas quand même. Avec les blancs, vous faites quoi? Il y a une recette très étonnante.
Alors, on peut tout simplement les faire cuire au plat. C'est ce que ma mère me faisait quand on était petit.
Des blancs au plat.
Voilà, tout simplement, et on adorait ça.
Donc là, de la pure protéine, d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, pour les rehausser un petit peu, parce que le blanc, c'est quand même pas très goûtu, c'est assez doux. Je fais une petite sauce pimentée, donc que je verse dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs? On peut les faire...
Des meringues?
On peut faire, bien sûr, des meringues. D'ailleurs, je vous en ai apporté.
Ouais.
J'ai une recette dans mon livre de meringues à l'hibiscus.
Magnifique. Ah, elles sont mauves. Toutes jolies. On a consacré il y a quelques semaines une émission à la meringue.
Elles sont... Oh là là, puis j'adore parce qu'elles sont, voilà, elles sont moelleuses.
Bon, oui. Particulièrement réussies. Et alors, à l'inverse, quand il nous reste des jaunes sur les bras, parce qu'on a fait justement, on a voulu faire des meringues, et là vous avez une autre proposition de recette.
On peut déjà les ajouter dans une purée, on peut faire évidemment un steak tartare dans une soupe pour donner de l'onctuosité, on peut les mettre dans des pâtes, parce que c'est très bon aussi un jaune d'œuf dans des pâtes. Si on veut les conserver un peu, qu'on n'a pas le temps de les cuisiner, on peut les faire confire. C'est un moyen très simple.
Alors, vous savez que Elvira, c'est la spécialiste du confisage des jaunes œufs dans la sauce soja.
C'est un petit toc que j'aime. Et je me suis calmée, puis surtout là, je suis en train de découvrir une nouvelle technique qui m'était inconnue jusqu'à ce jour.
On peut faire ça aussi dans du sel. Donc, on met une petite couche de sel, on dépose délicatement le jaune d'œuf parce que c'est fragile, et on recouvre d'une couche de sel. D'ailleurs, celle qu'on peut aromatiser avec des herbes. Et on peut aussi faire des versions sucrées. Donc, on met une couche de sucre, le jaune d'œuf, une couche de sucre. Donc, le sucre, on peut l'aromatiser. Donc là, je vous ai amené une version d'œuf confit au sucre et au gingembre.
Wow.
En gros, c'est une cuillère à soupe de sucre pour une demi-cuillère à soupe de gingembre râpé. Et on le fait confire pendant 2 jours environ.
C'est excellent, oui. ce petit coulant là qui surprend ça avec la pointe de gingembre.
Il y a un jaune qui est un peu moelleux, effectivement à l'intérieur ça coule légèrement, oui. Mais il y a vraiment le jaune d'œuf, c'est peut-être le gras d'ailleurs, c'est vraiment imbibé du parfum du gingembre.
Oui. C'est ça. Comme délicieux. Confit cristallisé, c'est vraiment génial, oui. Très parfumé.
J'ai une recette de tapioca au lait de coco, ah oui. À la banane caramélisée avec un jaune confit au sucre de gingembre.
Ou sur un régluant un peu sucré aussi, ça peut être
voilà.
Bon.
Ah ouais.
Façon mango sticky rice, mais avec un jaune d'œuf au gingembre, ça peut être pas mal, non
ouais.
On vous l'avait dit, vous nous l'avez prouvé, il y a plein de très très belles recettes tout à fait étonnantes dans votre livre qui peut devenir vraiment un livre quotidien. Et ça tombe bien, ça s'appelle L'œuf quotidien, recettes aux œufs pour tous les jours. Christine Légeret, en plus vous avez accompli cette performance de signer les recettes mais également le stylisme et les photographies qui sont particulièrement
belles,
c'est pratique, c'est vraiment un très chouette bouquin à se procurer aux éditions First. Un grand merci.
Merci à tous
d'être venus avec vos recettes et votre générosité. Merci beaucoup. La semaine prochaine, cap sur l'Aubrac, du bœuf d'Aubrac au thé d'Aubrac, en passant par l'Aligot évidemment. On croque cette région par tous les bouts et tous les goûts avec le chef cuisinier Cyril Atrazic. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.